rebonsoir et bon retour dans cette partie, deuxième partie d'Ondes Noires.
Voilà, donc dans cette deuxième partie, quelques coups de cœur. Donc le premier, c'était l'interview de Marin Ledin avec les visages écrasés aux éditions du Seuil. Et là, autre coup de cœur, un livre qui s'appelle « L'honorable société », co-écrit, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, il y a deux écrivains qui sont mis au clavier, Dominique Manotti et D.O.A. Et c'est un roman qui est paru il y a quelques mois à la Série Noire. Vous allez voir les premiers éléments d'enquête, on va dire. En gros, on est entre les deux tours d'une élection présidentielle où les deux candidats sont prêts à tout pour assouvir leur goût du pouvoir. Ça, je suppose que ça vous rappelle quelque chose. Là, quand même moins prégnant dans l'actualité, on va dire, un homme, à ce moment-là, est assassiné. Et cet homme, il touchait au cercle du renseignement et particulièrement autour des entreprises qui travaillaient pour le CEA. Au même moment, des écolos, un peu dingues, un peu naïfs, semblent avoir filmé la scène du crime. Je dis bien « semblent », vous verrez. Et tous ces hommes de pouvoir, aussi bien politiques qu'économiques, ceux pour qui des prises de bénéfices, des stock options, mais aussi les choix énergétiques du pays, sont plus importants que quelques vies humaines, en fait, tous ces hommes-là seraient ravis que le flic chargé de l'enquête tombe sur les anarcho-écolos qui en font des coupables, tout désignés. C'est si pratique finalement, hein. Ça vous rappelle rien ? Non, cherchez pas, c'est pas la compilation de quelques manchettes de journal. Quoique, franchement, on pourrait, hein. C'est tout simplement donc la trame de ce roman, concoctée par deux des grands écrivains français de romans noirs, Dominique Manotti et D.O.A., qui se sont mis ensemble pour une étude de mœurs, on va dire. Mais attention, ne vous attendez pas à un discours politique genre « tous pourris, tous des salauds », on pourrait même dire « des salopes » parce qu'il y a quelques femmes là-dedans. Non, ici, encore une fois, on est dans la bonne littérature et les deux auteurs tissent les méandres de cette politique fiction sans en donner les contours moraux. Et ça, c'est très très bien fichu. Leur propos en est donc beaucoup plus fort. Ça pourrait être un docu sur les collisions, entre les politiques et les enjeux économiques, les enjeux énergétiques. Mais en gros, D.O.A. et Dominique Manotti se sont saisis de cette glaise, en fait en l'occurrence on pourrait plutôt dire la boue, et ils en ont façonné un roman où fiction et réalité, réalité au pluriel, s'entremêlent en un savant jeu de dupes. Jeu de dupes, car il ne faut pas l'oublier, les écrivains, là, dans ce cas-là, c'est eux qui ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de travestir la vérité et de rendre encore plus vraisemblable la fiction. Comme je vous l'ai dit, donc, c'est vraiment un grand roman. En tout cas, on peut toujours dire que la littérature, c'est pas des maths, parce qu'un écrivain plus un écrivain, dans ce cas-là, ça fait plus que deux au niveau de la qualité. Voilà, donc je rappelle, c'est à la Série Noire, ça s'appelle « L'honorable société ». Alors, petit détail, on peut peut-être dire, Jacques, ce que représente l'honorable société, en fait, peut-être des gens ne savent pas, l'honorable société, c'est la mafia, hein, les gens d'honneur. Et donc, dans les pratiques économiques et politiques de notre pays, bah, y a quand même pas mal d'autres...
Et puis, pour revenir à des termes qu'on utilise pour la mafia, dès qu'on parle de nucléaire et de pouvoir nucléaire en France, puisque dans ce roman, ça se passe en France, on peut dire qu'il y a une sacrée omerta.
Voilà, oui, donc la mafia n'est pas loin. Alors là, on va partir très très loin.
Très loin.
On est en Europe quand même, pardon.
On reste en Europe, on va partir au Danemark, donc avec une nouvelle venue dans le monde du polar polaire, comme on se plaît à l'appeler.
Eh bien, je te laisse prononcer.
Cette jeune femme s'appelle Cicel Jo, de son prénom, et Gazan, de son nom. Le roman s'appelle « Les plumes du dinosaure ». Il est paru au Serpent à plumes dans la collection « Le Serpent noir ». Et il est traduit du danois, donc puisqu'elle est danoise, par Max Stalder et Magali Giraud. Donc cette dame est danoise et biologiste. Et son héroïne est aussi danoise et chercheuse. En fait, elle est
chercheur.
Elle est chercheur, elle est plus précisément doctorante en biologie. Pour revenir au titre du roman, « Les plumes du dinosaure ». Car si vous ne saviez pas avant la lecture de ce roman, vous ne pourrez plus l'ignorer après. Les oiseaux, nos oiseaux à nous, hein, la pie, l'aigle, le moineau, qu'ils soient rapaces ou pas, eh ben, ce sont des dinos. Eh oui. enfin plutôt, disons, d'après d'ailleurs, elle nous l'explique bien, les descendants directs des dinosaures.
Eh oui, théorie de l'évolution.
Voilà. Mais voilà, il y a encore des savants, comme dirait ma grand-mère, qui doutent de cette vérité et qui vont même jusqu'à la réfuter. C'est quand même pas des créationnistes, il ne faut pas exagérer. Mais là, sur cette théorie, ils bloquent. Et c'est justement le sujet de la thèse, donc, puisqu'elle est doctorante, de notre futur docteur en bio. Et elle démontre impeccablement que le raisonnement et les thèses de ces incroyants, comment ils se plantent en fait. Bon, évidemment, on est dans un polar.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais...
Et pas dans un que sais-je. Et donc, le directeur de thèse et le chef de tous les labos de Copenhague, le directeur de thèse donc de Annabella, elle s'appelle, eh ben, il décède, et d'une drôle de façon. Alors ça, c'est un des trucs qui est vachement bien dans le bouquin, c'est qu'il est bouffé de l'intérieur par des vers, des cestodes. Alors je ne sais pas si vous saviez ce que c'est des cestodes. À l'époque, moi je ne le savais pas avant de lire. En fait, c'est des ténias. Mais il en a 26 000 dans le corps. Donc évidemment, il est bouffé de l'intérieur, il finit par exploser.
Qu'il tombe en poussière.
Ça se passe au début, donc... Il se déliquette. Alors la jeune Annabella, elle est d'abord suspecte. Et puis, un peu écartée des suspects, elle va, malgré elle, car en fait, elle veut absolument soutenir son mémoire, même si son directeur de thèse, il est décédé, elle va devenir un peu auxiliaire de police. Et elle va enquêter avec et contre un petit peu le beau mais ténébreux flic chargé de l'enquête. Alors, si je le raconte comme ça, ça aurait facilement pu tourner au roman Harlequin spécial Labo. Mais non, car Cicel Joe réussit à maintenir un rythme et un vrai suspense à son roman. On peut dire que c'est un thriller. Et puis... Elle raconte aussi assez bien la vie des labos de recherche, souvent à court de budget, passant trop de temps à chercher de fonds, économisant sur tout pour mener à bien leur recherche. Le roman est truffé de termes scientifiques, d'explications sur les oiseaux, sur les dinosaures. Sans être, c'est jamais compliqué ou ennuyeux. On a même le sentiment d'avoir, c'est plus que le sentiment, on a appris des choses quand on arrive à la fin du roman. Et puis en même temps, ça fait plaisir quand même de lire un roman, un thriller scientifique qui soit pas un thriller technologique avec des hackers, des computers et tout ça. Ici, il est question de ténia, mais aussi d'os de dinosaures vieux de plusieurs siècles, d'ornithologie, d'épistémologie. Ça nous change un petit peu de nos thrillers américains d'habitude. S'il fallait trouver un léger défaut, c'est que à chaque fois que l'auteur, enfin dès qu'elle introduit un nouveau personnage qui va avoir de l'importance dans l'histoire, elle se sent obligée de nous raconter sa vie quasiment depuis sa conception jusqu'à son apparition dans l'intrigue. Et il y a des moments où le lecteur, il a vite compris tous les symptômes.
C'est peut-être le défaut d'un premier roman.
Alors certes, bon, c'est un polar polaire, c'est pas aussi bon que Joe Nesbo ou même que Måns Kallentoff, les deux qui sont au top là un peu chez nous en ce moment. Mais j'avoue que si elle en écrit, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire celui-là, et si elle en écrit un autre, je le lirai très volontiers. Pour finir, je ne saurais trop vous conseiller de vous jeter sur les ouvrages passionnants de Stephen Jay Gould, qui parle d'évolution et qui à un moment évoque dans un de ses romans. De ses écrits, puisqu'en fait, c'est plutôt des chroniques en fait, qui racontent l'évolution de Darwin et plein d'autres sujets, à partir d'anecdotes. C'est un peu ça, dans le souvenir que j'ai de les avoir lus. Et Stephen Jay Gould, je voulais en parler aussi à propos de ce livre.
Voilà, moi je vais faire un peu ma savante. Effectivement, Stephen Jay Gould, ça a été un des plus grands évolutionnistes du XXe siècle. Et en particulier dans Le sourire du flamant rose et Le pouce du panda, il nous démontre bien que cette fameuse théorie de l'évolution, quand on la prend intelligemment, elle est irréfutable. Et si certains doutent qu'un dinosaure ait des plumes, qu'il aille voir quelques fossiles, on va dire, ou quelques empreintes d'archéoptérix, et il verra des oiseaux avec des griffes et des dents.
Eh bien, Annabella, là, l'héroïne, elle en parle à un moment, justement.
Eh bien, voilà. Peut-être un petit morceau de musique. Alors, on va l'expliquer,
ce petit morceau de musique.
Il n'arrive pas au hasard.
Non, c'est un morceau qui est choisi par Marin Ledin, donc, qui était notre invité de la première partie de l'émission. Le morceau s'appelle Life on Mars et le chanteur, c'est David Bowie. L'enregistrement s'est fait au Nassau Coliseum qui est à New York.
It's a god awful small affair to the girl with her mousy hair, and her mother is yelling no, and her father has told her to go, but her friend is nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with her clearest view. She's hooked to the silver screen, but the film is a sad thing for, 'cause she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dead small. Oh man, those cavemen go. It's the freak.
Eh bien,
ces applaudissements, c'était pour la guitare de Mick Ronson, les applaudissements qui ont été d'ailleurs coupés au montage.
C'est ce que j'allais dire, moi j'ai pas du tout entendu parler d'applaudissements.
Mais... La guitare de Mick Ronson qui accompagnait David Bowie, lequel David Bowie, après ses ennuis de santé, semble-t-il, va retourner en studio en 2012. Donc, tant mieux pour tous ceux qui l'aiment comme nous.
Voilà, et donc ça, c'était un petit clin d'œil à Marin Le Dain que nous avions en interview dans la première partie d'émission. Je vais terminer cette deuxième partie en vous parlant d'un livre qui s'appelle Loser Né, donc loser comme les perdants hein, en anglais, vu mon accent, je préfère préciser. C'est un roman d'Elvin Post et il est paru au Seuil Policier. La traduction, je précise, du néerlandais. C'est traduit par Hubert Gall. Pourquoi je précise ? Parce que c'est un roman qui se passe aux États-Unis. D'ailleurs, je crois comme... Alors, je suis sûre, comme le précédent Faux usage de faux d'Elvin Post, mais aussi, peut-être aussi comme son premier. Lui, il préfère parler de ses romans des États-Unis.
C'est vrai qu'Elvin Post, après, si on ne précisait pas, son nom pouvait très bien faire américain.
Alors déjà, première chose, mais évidemment, c'est ce qui ne fait pas la qualité d'un roman, mais n'empêche que ça attire l'œil. C'est une des plus jolies couvertures du moment, un très bel, très beau dessin un peu naïf, plein de couleurs. On est dans les rues de New York. Le précédent roman d'Elvin Post, tu viens de l'évoquer, s'appelait Faux usage de faux. Il nous avait bien plu, mais c'est le cas de le dire d'ailleurs, il y avait quelques petits mais. Et donc, il est bien agréable de voir qu'un auteur se bonifie au fur et à mesure et qu'il avance. Et c'est le cas ici avec Loser Né. J'avais vraiment envie d'en parler parce que je trouve qu'il y a vraiment une progression à la fois dans la narration et à la fois dans l'écriture. Je dirais qu'au départ, la trame est classique. L'histoire pourrait peut-être même vous paraître banale. Mais Elvin Post nous livre d'abord une narration très enlevée et originale. On va dire comme une version différente. Un peu comme s'il était parti d'une scène filmée de manière très classique, qu'il avait pris sa caméra et qu'il l'avait mis dans un coin inattendu. Alors, justement, cette histoire, comme je l'ai dit, déjà vue. Pourquoi ? D'abord, on est dans les rues de New York. On est dans les trafics de drogue et on est dans les guerres de gangs. Et évidemment, on va se retrouver avec des très méchants qui sont les chefs de gang et puis les losers nés, ceux sur qui ils tombent toujours les ennuis sur la tête. Je parlais de Cade, un des personnages, c'est Weavers, je pense que c'est à peu près bien prononcé. C'est un de ces Cade. Melvin nous en livre une version plutôt gratinée. C'est un fief et salaud, c'est avec tout le monde, il est vraiment pas drôle, mais c'est aussi un con intégral. Et c'est certainement pas sa petite amie Viviane qui nous dira le contraire. Elle aussi, c'est un personnage intéressant. Elle commence en gros pétasse blondasse. Mais l'écrivain, petit à petit, lui donne de l'épaisseur en racontant son enfance, en racontant un petit peu ce qui lui est arrivé. Et en fait, il l'enrobe d'un peu de tendresse. Mais je ne vous ai pas parlé du personnage principal. Il s'appelle Roméo. Et du coup, comme il s'appelle Roméo, évidemment, c'est le fait d'être attiré par une belle donzelle qu'il va lui arriver plein d'ennuis. C'est pas un personnage facile à cerner. Au début du roman, il aide Vernon, un vieux monsieur, à vendre revues et bouquins d'occasion dans la rue. C'est donc le loser né, mais il y a aussi son frère, Russell. Et tous deux font ou ont fait partie du gang du Cade, Sean Weavers, et c'était en fait des guetteurs. Roméo en est sorti grâce au livre, jolie idée, et Russell continue, il vient tout juste de sortir de prison, il continue ses petits trafics. Un jeune noir va être tué, les gangs sont chauffés à blanc, et il suffira d'une petite bourde de cet idiot de Roméo pour le mettre en danger, ainsi que son frère, sa famille, Vernon, pas mal de gens. Et donc Vernon, le vieux bouquiniste, une espèce de philosophe, veille et va aussi les aider. On dirait que Elvin a choisi de prendre des personnages tout droit sortis d'un film de Scorsese, qui les a malaxés, un peu à la façon des frères Cohen, et il les termine, allez, en gros, chez les Simpson. Voilà, moi c'est l'impression que ça m'a fait. Ça donne un roman drôle, décalé, et malgré tout, profondément humain. À l'ombre d'un monument de la littérature que cite l'écrivain régulièrement dans ce livre, Moby Dick, de Melville, et il est vrai que Roméo semble aussi perdu dans les rues de New York qu'Ismaël sur le baleinier du capitaine Achab. Et pour terminer, on peut dire que si on dit que New York, c'est The Big Apple, de temps en temps, c'est aussi une sacrée baleine et c'est un sacré foutoir sur ses trottoirs. Donc voilà, je rappelle, c'est un livre qui s'appelle Loser Né, Elvin Post, collection Seuil Policier, donc évidemment aux éditions du Seuil. Depuis 3-4 romans, les couvertures ont changé et, s'il est rare de le dire, plutôt en bien. Et puis un petit truc très intéressant, en retour de la quatrième de couverture, maintenant dans les romans, il y a un mot de l'auteur. Et en plus de la description du pitch de la quatrième de couverture, je trouve que c'est un truc intéressant à lire avant de choisir un roman. Voilà, on va vous rappeler donc les deux autres romans dont on a parlé dans cette deuxième partie. Jacques, je te laisse parler de ta danoise.
Cicel Jo Gazan, Les plumes du dinosaure dans la collection Serpent noir du Serpent à plumes.
Et voilà, deux excellents romanciers qui se sont mis ensemble pour l'honorable société, Dominique Manotti et DOA, à la série noire chez Gallimard. On vous souhaite de bonnes lectures.
Et bien sûr, Les visages écrasés de Marin Le Dun que nous avons reçu en première partie.
Voilà, au revoir, à la prochaine.
À très bientôt.